Merci Mathieu Laurent, on vous retrouve à 9h pour un nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'était le rendez-vous politique de la semaine. La conférence de presse de François Hollande à l'Élysée, la sixième depuis son élection. C'est un exercice, un événement très attendu par les rédactions, peut-être un peu trop. En tout cas, les éditorialistes n'ont pas été emballés par la prestation de François Hollande. Un président sans souffle, même si la presse se félicite de l'annonce concernant l'accueil de 24 000 réficiés en France. À part cela, le grand flou, titré par exemple le journal Le Parisien. Hollande face à la presse, face à 350 journalistes environ. L'événement politique de la semaine a-t-il fait pchit? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources avec nos invités. Nathalie Saint-Cricq, bonjour.
Bonjour.
Chef du service politique de France 2, Gérard Courtois, éditorialiste au Monde, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez publié chez Perrin les grandes crises politiques françaises 1958-2014. Frédéric Seyss, journaliste au service politique de France Culture, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et en cours d'émission, nous rejoindrons William Aurobin, correspondant au Wall Street Journal. Notre regard extérieur aujourd'hui dans le secret des sources, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. Bonjour.
Bonjour.
Et puis dans les coulisses de l'émission, les indispensables Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes cette semaine Jean Frédérics. Le clin d'œil de la semaine. En fin d'émission sera signé Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Bonjour Monsieur le Président.
Monsieur le Président.
Oui.
Monsieur le Président. Bonjour.
La France accueillera 24 000 réfugiés dans les deux prochaines années. Vous avez annoncé
que la France allait s'engager d'abord dans des vols de reconnaissance en Syrie.
Je ne doute pas un seul instant que mes confrères reviendront sur le sujet que vous venez d'aborder.
La réforme du droit du travail, ça génère forcément des inquiétudes avec cette crainte d'un amoindrissement de la protection des salariés.
Comment financer cette baisse d'impôts alors que la croissance est pour le moins fragile?
Pouvez-vous, Monsieur le Président, préciser votre pensée?
Je voulais savoir si vous avez d'autres regrets, d'autres choses que vous ne referiez pas de la même façon.
Merci, Monsieur le Président.
Le secret des sources.
Voilà plusieurs questions posées lors de la conférence de presse lundi dernier. Frédéric Seyss de France Culture. Alors dites-moi Frédéric, une conférence de presse à l'Élysée, c'est un exercice très solennel avec des codes très précis dans un décor qui est la salle des fêtes de l'Élysée. Et tous les ministres sont là, un peu figés.
Oui, ils arrivent de côté en attendant le président. Ils arrivent quelques minutes avant lui, donc ça participe aussi de ce décorum quasi monarchique avec la salle des fêtes très solennelle. C'est celle où on remet notamment les légions d'honneur aussi. Et depuis le début du mandat de François Hollande, c'est là où tous les 6 mois, il se livre à cet exercice. Il l'avait promis, rendre compte devant les Français avec un public. Il est debout, il fait un propos liminaire qui est plus ou moins long selon les fois. Cette fois-ci, il était assez court, il a duré environ un quart d'heure. Et ensuite, il répond aux questions pendant quasiment 2 heures. C'est vrai qu'il y a un aspect extrêmement monarchique, évidemment, qui, d'ailleurs, j'entendais derrière moi, il y avait des confrères italiens qui disaient, voilà, on est au château et on est, le roi arrive bientôt. Enfin, voilà, il faisait des blagues. Tout le monde se lève quand le président arrive, ce qui n'empêche pas, évidemment, ensuite de poser des questions qui, là, pour le coup, ne participent pas toujours de l'esprit de cour.
Frédéric, c'est un peu démodé dans la forme. L'entourage du président de la République cherche à faire évoluer, ou en tout cas, à modifier le format de cette conférence de presse.
Mais ils l'ont déjà fait un peu. Alors, ils sont piégés, évidemment, par le fait que c'était une promesse de campagne, rendre compte tous les 6 mois, donc on peut pas s'en abstraire comme ça, ça serait très remarqué. Ils ont décalé l'horaire de la conférence de presse, peut-être parce qu'elle n'a plus l'influence, l'impact d'antan. Avant c'était plutôt le soir, maintenant c'est à 11h du matin jusqu'à 13h, avec un président qui s'est attaché à rendre pile à l'heure, comme on dit, à rendre l'antenne quasiment en professionnel. Je pense que Nathalie Saint-Cric pourra en parler mieux que moi. Et deuxièmement, ils ont réduit le propos liminaire qui, dans le début du quinquennat, faisait 40 minutes, jusqu'à 40 minutes. Et là, c'était effectivement assez bref, assez court pour donner un maximum de place aux questions. Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait promis de faire des conférences de presse très régulières. Il a vite abandonné l'exercice parce qu'il n'y a pas un intérêt majeur pour le pouvoir, finalement, dans cela.
Alors, effectivement, pas question de déborder. Nathalie Saint-Cric, du service politique, chef du service politique de France 2. La conférence de presse démarre juste à 11h ou juste après. Et il y a le 13h sur votre chaîne. Donc là, c'est très calibré.
Ben oui, parce qu'on était les seuls, hormis les chaînes d'infos, à diffuser cette conférence de presse. Donc 11h, on ne peut pas décréter qu'il n'y aura pas de journal ce jour-là. Donc il y avait une discipline, il s'y est plié. Ça fait 2 heures et je dois dire qu'il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, en rendant l'antenne 2 minutes avant. Donc c'était extrêmement calibré cette fois-ci parce que parfois, vous le disiez tout à l'heure, on a eu des 3 heures, 2 heures et demie. Au bout d'un moment, on commençait à trouver que ça tournait un peu en rond. Là, ça a été 2 heures montre en main. Même si certains ont trouvé la fin un peu ennuyeuse, malgré la brièveté.
Frédéric Seize, vous étiez donc, vous, dans la salle des fêtes de l'Élysée. Quelle est la règle pour avoir le micro et poser une question au président de la République?
C'est une règle qui n'est pas écrite, qui est assez informelle. En théorie, chacun peut lever la main et espérer que l'un des membres du service de communication qui arpente cette salle arrive avec un micro ouvert et permette de poser la question, voire, alors ça ce serait une exception, quasiment un rêve, permettre un droit de suite si éventuellement la question, comme dans certains pays anglo-saxons, n'a pas été suivie d'une réponse convaincante ou sur le fond. Ce qui se passe en réalité plutôt, c'est qu'il faut prévenir le service de presse de l'Élysée, le service de communication. À sa tête, c'est un garçon dont la presse a pas mal parlé, qui s'appelle Gaspard Ganzer, pour avoir davantage de chances. C'est pas impossible si on n'a pas prévenu d'avoir le micro, mais c'est beaucoup plus difficile pour avoir davantage de chances de poser sa question, sachant en plus que là, il y avait deux parties. Il y avait une partie internationale au début, on a parlé des vols de reconnaissance sur la Syrie, et puis une partie plus nationale, où il a été question du droit du travail et un peu de 2017 aussi.
Nathalie Saint-Cric, combien de journalistes de France 2 sont à l'Élysée pour la conférence de presse?
Deux. Mais je voudrais revenir 2 secondes sur ce que vous venez de dire. C'est codifié quand même. C'est-à-dire, cette année, c'était politique étrangère d'abord et politique intérieure ensuite, avec la volonté d'être faire plus politique étrangère, migrants et toute la problématique internationale qui sert d'une certaine manière François Hollande, parce que tout le monde considère qu'il est plutôt bon dans cet exercice. Et finalement, la partie 1, portion un petit peu plus congrue, c'était la politique intérieure. Et ça, nous avait prévenu que si on posait politique extérieure internationale, on était en premier, et que si on faisait politique internationale, on serait à la fin, voire pas du tout.
Gérard Courtois, alors vous, vous signez un éditorial dans Le Monde, un éditorial à charge contre la conférence de presse semestrielle, dans Le Monde daté
du 9 septembre.
François Hollande, vous dites, devrait renoncer à cet exercice. C'est François Hollande qui devrait renoncer ou nous, journalistes?
Hollande a effectivement voulu relever le défi au début de son mandat. Alors, ce qui est parfaitement louable, de faire un compte-rendu de son action tous les 6 mois, très bien, mais de le faire à travers cet exercice qui est quand même très codifié, très solennel, j'allais dire assez guindé. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que cette conférence de presse, elle était quasiment tombée en désuétude. Chirac en avait fait 4 en 12 ans, Sarkozy en a fait une, vous le rappeliez, et il s'est bien abstenu de continuer parce que ça a été quand même assez calamiteux, la seule vraie conférence de presse qu'il a faite, car là c'est du sérieux, etc. Après la politique de civilisation, c'était totalement baroque, et ensuite il en a fait 2 ou 3 qui étaient parfaitement ciblés sur des affaires internationales, précisément. Donc pas du tout du tout terrain. Et donc Hollande a voulu, parce qu'il se sentait suffisamment sûr de son brio, de son aisance avec les journalistes, sa capacité à faire ce ping-pong qu'il a fait pendant 20 ans, 30 ans avec la presse entière. Et donc, il avait envie. Et je pense que même, il y trouvait non seulement de l'intérêt, mais probablement du plaisir à la perspective de cette espèce de jeu de rôle pour faire passer son message, mais à travers cette mise en scène et ce dispositif. Voilà. Et puis, il faut bien dire que là, c'était raté. Et c'était raté pour des tas de raisons. C'était raté parce que une conférence de presse, c'est une performance. 2 heures, vous le rappeliez, parfois même au début de son mandat, ça a été 2h30, 2h30.
C'est un côté spectacle, un côté show.
C'est un côté marathon. Non, c'est d'abord un côté performance. Faut tenir tout terrain, toute question, debout, devant, avec des questions qui, certes, ne sont pas toujours incisives et toujours suivies d'un droit de suite, mais qui sont dans leur diversité, qui obligent à avoir réponse à tout, ou sembler avoir réponse à tout. Ça doit être un spectacle. Là, ça ne l'a pas été. Et ça ne l'a pas été pour une raison assez simple, à mon sens, c'est que autant il jouait dans le ping-pong sur ses premières conférences de presse, et il le jouait plutôt bien, même si bon, on pouvait faire des critiques sur le fond, mais dans la forme, il y avait une espèce de vivacité dans l'échange. Depuis le mois de janvier et les attentats, il s'est installé dans ce costume de président de crise, plus le président normal, plus le président sympa, c'est le président de crise. Et le président de crise, il ne peut pas être dans l'humour, dans la pirouette. Il est obligé d'être dans la gravité. Donc il y a dans la forme, dans le ton, dans le style, une espèce de contradiction. Et puis alors, la conférence de presse, pour être réussie, il faut que ce soit un événement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Or là, très honnêtement, tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a développé, était déjà connu. C'est extraordinaire. Je veux dire, la Syrie, ça, on l'avait écrit 3 jours avant. Les 24 000, c'était dans les réseaux et sur Internet dès le matin. Les baisses d'impôts, c'était annoncé depuis 15 jours ou 3 semaines, etc. Le code du travail, tout le monde savait que c'était sur la table. Et il n'en a pas dit grand-chose. Donc, il y avait une espèce de commentaire de l'actualité sans aucune nouveauté. Alors, c'était déceptif, effectivement.
Alors, on va écouter un extrait de la conférence de presse de François Hollande avec un mot qui a attiré nos oreilles et nos regards. On écoute.
Il nous revient et il me revient de répondre à l'urgence et surtout de faire des choix. Ceux qui compteront le moment venu pour le jugement de l'histoire, mais des choix qui doivent également dessiner notre avenir.
Voilà, François Hollande, les choix. Alors si on n'a pas appris beaucoup de nouveautés lors de cette conférence de presse, effectivement les thèmes avaient déjà été annoncés dans la presse, vous en parliez Gérard Courtois.
Éventés,
mais avec beaucoup de précision, notamment les 24 000 réfugiés, on avait déjà le chiffre. Nathalie Saint-Cricq, le terme choix vous a fait réagir, vous l'avez noté, il a été prononcé plusieurs fois.
Oui, il a été prononcé plusieurs fois, de même que la morale, être à la hauteur, c'est-à-dire tout ce que disait aussi Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'assumer pleinement son rôle dans l'histoire des réfugiés ou des migrants, puisque la terminologie compte dans cette histoire, ou sur le terrorisme ou le terrain international. Donc il a effectivement fait ce qui lui a réussi depuis le 11 septembre, mais ce qui lui a réussi et ce que les Français ont totalement reconnu. Donc il a insisté avec les éléments de langage, mais des éléments de langage qui pour le coup ne sont pas des éléments de langage gratuits, qui correspondent effectivement à ce qu'il souhaite assumer. Et puis après, sur le reste, il a esquivé, parce que là, il ne peut pas dire le choix. Bon, sur le code du travail un peu, mais toute la partie, si j'ose dire, un peu régalienne, c'est la morale, le regard de l'histoire, c'est mon choix, je l'assume, c'était plus sur le début, le reste il l'assume aussi, mais comme il a passé son temps à essayer de pas répondre et puis qu'il n'avait pas énormément, non pas de choses à dire, mais que tout ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire ce qu'il rendait si vif, rapide et tout, il pouvait pas le faire parce que, un, il y a plein de sujets sur lesquels il ne voulait pas parler, et on a même eu l'impression qu'il aimait plus les journalistes, alors que logiquement il a passé sa vie à les adorer et adorer cet exercice intellectuel. Donc ça a donné même un président à la fin qui avait l'air de s'énerver, du genre, vous allez encore me poser les mêmes questions à la noix.
On l'écoutera, cet extrait, effectivement, Nathalie Saint-Cricq. On a tout de même eu confirmation, Frédéric Seyss, d'une information, malgré tout, c'est la proportionnelle. Vous avez travaillé là-dessus, la proportionnelle a été renvoyée à bien plus tard pour les législatives.
Disons qu'il a botté en touche, c'était l'une des questions un petit peu de fin de conférence de presse qui en général ne retiennent pas trop l'attention des médias, soit parce qu'il y a déjà eu alors quelques décisions annoncées officiellement cette fois-ci, on parlait de la Syrie et des migrants, soit parce qu'il y a aussi un état de fatigue à force et de lassitude presque, même si là on commence à avoir la fin, et puis c'est une question institutionnelle qui est peut-être moins concernante directement, comme on dit parfois dans les rédactions pour les Français. Il a enterré, sans le dire, cette proposition qu'il avait fait dans sa campagne de 2012, et ce qu'ensuite ont confirmé plusieurs conseillers du président qui ont dit voilà, c'est pas possible de le faire parce qu'une proportionnelle intégrale, ce serait très compliqué, ça ferait rentrer des dizaines de députés FN au Parlement. Une part de proportionnelle, il faudrait redécouper les circonscriptions, c'est un boulot d'enfer à moins d'un an. Il y a autre chose qui m'a frappé, alors sur ce qu'on disait sur ce côté monarchique, peut-être qu'il y a un contraste qui est encore plus cruel entre effectivement cette mise en scène où le roi est là pendant 2 heures debout à prendre les questions et à répondre, et en même temps le côté vaporeux des réponses et des manettes qu'il a en main. C'est-à-dire qu'on a dans l'image une sorte de monarchie absolue. En France, avec la Ve République, le président a un pouvoir institutionnel massif, il peut dissoudre l'Assemblée nationale qui, elle, ne peut pas le démettre, etc. On le sait. En revanche, outre l'international où effectivement c'est le chef de guerre, et d'ailleurs ça l'a fait cette année, ça l'avait fait l'an dernier à la même époque où il avait annoncé des frappes sur l'Irak déjà, et c'était ça l'annonce principale de la conférence de presse de septembre 2014. À part ça, sur le chômage, sur les réformes nationales, il y a comme une impression de flottement, de manque de densité peut-être.
C'est ce que vous disiez, on parle d'abord de l'étranger, le costume chef de guerre, le costume...
Oui, mais à sa décharge, pour répondre à ce que disait Gérard Courtois, à une époque où il y a tout sur Internet, toutes les 12 secondes sur le moindre site d'un journal, où tout le monde parle, où les ministres vous abreuvent de tout ce qu'on veut, qui sont sur le plateau de télé, deux chaînes, à croire qu'on ne peut pas ouvrir une télé sans voir quelqu'un qui vous donne des infos, tous les matins on ouvre les Échos, on a le Nouvelle Réforme Économique, on ouvre le Monde ou le Figaro, ou tout le monde, enfin tout, on voit tout, on sait tout en avance, donc si vous voulez, même le malheureux, s'il voulait faire une espèce de choc en annonçant quelque chose, il faudrait d'abord que lui-même ne parle à personne, ce qui n'est pas le cas, même si ça c'est un petit peu, c'est plus contenu maintenant. Mais pour la proportionnelle, on n'a pas été étonné parce qu'on l'avait déjà entendu avant. Donc comme tout le monde parle de tout, tout le monde écrit sur tout et qu'on sait tout, quand De Gaulle parlait, j'imagine, j'y étais pas, qu'il y avait une espèce de parfois d'effet ou de sidération ou d'étonnement quand il disait quelque chose. Bien que les questions à l'époque, à mon avis, aient été un peu plus bridées, mais là aujourd'hui, on a quasiment eu la réponse sur tout entre les communicants de l'Élysée, même sur le fameux mea culpa, on avait déjà le son de cloche de l'Élysée, donc on n'est plus forcément étonnés, nous, parce qu'on voit tout et on entend tout partout, donc c'est peut-être aussi pour ça que le genre est usé.
Gérard Courtois.
Il lui est arrivé, je pense à la conférence de presse de janvier 2014, où est lancée toute la démarche, la philosophie, la démarche, le calendrier du pacte de responsabilité, qui est au fond...
Où il les met en forme, c'est-à-dire on a l'impression.
Le moment où il fixe véritablement le cap de son quinquennat, sur le plan économique et social. Et là, c'est suffisamment fort dans l'expression, dans le projet, quoi qu'on en pense sur le fond, quelles que soient les critiques que ça suscite, mais il avait à ce moment-là réussi à fixer un cap. Or, c'est ça l'une des difficultés de l'exercice conférence de presse, c'est que ça met en scène le volontarisme. La majesté régalienne, royale, monarchique, etc., ça met en scène le volontarisme présidentiel. Mais le volontarisme, il est crédible uniquement si, par ailleurs, il y a des preuves, des démonstrations qu'il y a une emprise sur la réalité, qu'il y a un projet, qu'il y a un cap, qu'il y a une vision. Ça manquait. Alors, en 2014, ça prend sens et l'exercice est plutôt réussi, même s'il est très long ce jour-là, parce que vraiment, pour la première fois, il y a une véritable
vision
mise
globale,
en scène de ce qu'il va faire pendant 3 ans. La question était quand même assez encore largement posée à ce moment-là. Là, à partir du moment où il n'y a pas de démonstration, et même sur tous les sujets qu'il aborde le lundi dernier, le 7 septembre, je veux dire, sont des choix. Oui, il a beaucoup répété, je fais des choix, je vais faire des choix, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir, etc. Mais ce sont des choix contraints, très contraints. Sur les réfugiés, c'est quand même un choix reculant. Sur la Syrie, c'est un choix, disons, en biais, qui marque une inflexion, mais sans beaucoup d'explications sur les raisons de cette inflexion, etc. Donc, ce sont des choix qui soit sont vaporeux sur la scène, sur les questions intérieures, soit sont un peu contraints sur les questions extérieures. Donc, c'est bien gentil de dire je fais des choix, je fais des choix, je fais des choix, mais ça n'est pas aussi évident que ça, me semble-t-il, dans la perception que les Français peuvent en avoir. Et au contraire, ils ont plutôt tendance à considérer qu'il ne fait pas assez de choix, ou des choix pas assez.
Il a été prudent.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Avec nous en duplex au téléphone, William Horobin, correspondant du Wall Street Journal. Bonjour, William Horobin.
Bonjour.
Alors, vous étiez à l'Élysée, vous, pour la conférence de presse. Quel regard porte le journaliste anglais qui travaille dans un journal américain sur cet exercice de la conférence de presse à la française?
C'est vrai que pour moi, c'est un format assez improbable. Les autres intervenants ont souvent parlé d'un format un peu monarchique.
Oui.
Et ça, on n'a pas vraiment d'équivalent en Angleterre, par exemple. Même si on a une monarchie, la reine ne fait pas de conférence de presse. Du coup, on a l'impression, en fait, que la mise en scène prime totalement sur les annonces. Et le jugement que peut avoir la presse française pour beaucoup plus sur la capacité à apporter les habits d'un président, à incarner le rôle présidentiel. Alors que pour nous, la presse étrangère, c'est pas vraiment une question qui nous intéresse autant que ça.
Et alors du coup, qu'avez-vous retenu pour vos lecteurs, William Robin?
On a fait un article principalement sur les deux sujets, enfin les deux annonces, même si c'est pas tout à fait nouveau, mais la confirmation des 24 000 migrants et les frappes en Syrie. Sachant que il y avait des annonces dans d'autres pays le même jour aussi, en termes de le nombre de migrants, et l'Angleterre a annoncé qu'ils avaient déjà effectué des frappes en Syrie. Donc, s'il n'y a pas vraiment d'annonces nouvelles ou de scandales à évoquer pour la presse étrangère, c'est pas forcément de grand intérêt.
Merci beaucoup, William Robin, correspondant du Wall Street Journal à Paris.
Monsieur le Président, oui. David Revaud-Dallone, journal Le Monde. Depuis avril 2014, vous avez à maintes reprises lié une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017 au résultat sur le front du chômage. Cet été, vous parliez même d'une baisse longue et crédible, suffisamment longue pour être crédible. Pourriez-vous nous en préciser l'ampleur, le volume, la temporalité exacte ?
Je me suis engagé sur la diminution du chômage, mais parce que c'était l'enjeu de la campagne de 2012. Mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait connu, sans doute que la crise expliquait aussi cette explosion, 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est sans doute pas pour rien dans le résultat de 2012.
Voilà, alors la question sur le chômage est posée, mais elle n'est pas sur le fond. Le lien est fait avec une possible candidature en 2017. Le problème du chômage, cette grave question est juste effleurée. Est-ce que nous ne portons pas une responsabilité là-dessus, en ne recentrant pas le débat sur le problème plutôt que sur les effets, une possible candidature en 2017? On se doutait bien qu'il n'allait pas nous dire qu'il serait candidat à 18 mois du scrutin, non, Nathalie Saint-Cricq?
Bah, écoutez, il prend la parole quand même assez souvent, François Hollande. Donc, alors, il y a peut-être une faute des journalistes qui, dans cet exercice solennel, n'ont pas réaffirmé.
On n'envisage pas, en particulier, pas du tout. Hein.
Oui, mais il est quand même en déplacement tous les deux jours, il réagit à tout, c'est-à-dire que c'est quand même la première fois qu'on a un président qui réagit à la moindre chose qui se passe dans l'actualité. Quand il y a les chiffres du chômage, on a une réaction de Valls ou de lui, donc on est peut-être aussi tellement habitué à entendre que normalement les premiers signes sont bons, que la croissance 1,5 et que ça va s'arranger que... Au bout d'un moment, on pose même plus. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous. On repose peut-être même plus la question parce qu'on connaît la réponse à l'avance, qui est de dire que les signes ça va dans le bon sens, qu'il va y avoir un rebond, mais que c'est difficile parce que. Voilà, donc c'est peut-être ça notre erreur, mais.
Quelle serait en plus la formulation de la question?
Il a déjà été. Voilà, est-ce que vous espérez? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous savez?
Vous avez échoué, la courbe n'a pas été inversée. On lui a déjà posé 20 fois et on se doute évidemment qu'il ne va pas dire c'est complètement foiré, mon quinquennat est nul et j'ai échoué sur toute la ligne. Et je voudrais ajouter quelque chose, alors sans aucun corporatisme du tout, mais. Le thème du chômage, c'est maintenant quelque chose qu'on trouve régulièrement sur les réseaux sociaux après chaque conférence de presse avec des gens qui disent ces journalistes sont vraiment nuls, puis qu'ils ont posé toutes les questions et ils n'ont pas parlé du chômage. Je trouve que autant la question sur 2017 des fois relève un peu du réflexe un peu bête des journalistes politiques dont je suis et dont je ne m'abstrais pas de ce reproche, autant
pas le seul.
autant le classique de la question sur le chômage entre guillemets relève aussi parfois du reproche un peu pavlovien à adresser aux journalistes, puisque la question n'aurait ni beaucoup de sens et n'apporterait pas, surtout, comme l'a dit Nathalie Saint-Cricq, de réponses utiles aux gens qui regardent la conférence de presse.
Gérard Courtois.
Non, mais en plus, il ne tient qu'à lui de répondre sur le fond. Il est absolument libre de sa réponse. Alors, il est bien content de ce petit jeu qu'il maîtrise sur « ça n'est pas mon souci, moi je continue à présider jusqu'au bout, je ne me préoccupe pas de 2017, etc. etc. » Mais rien ne lui interdit. Rien ne lui interdit, sauf la crédibilité. Panne de résultats depuis 3 ans, les annonces répétées que la courbe allait s'inverser. Je ne vois pas ce qu'il pourrait aujourd'hui dire
qui serait crédible,
d'audible, sur le fond du sujet, parce qu'il a, sur cette partie-là de ses engagements, incessants, il a, pour l'instant, échoué. Il espère que les choses vont vont s'améliorer, mais à force de dire qu'il espère, ça ne sert plus à rien de le dire.
Et puis il a lancé tout ce qu'il y avait dans sa fameuse boîte à outils, et finalement la seule réponse honnête qu'il pourrait faire, c'est celle qu'a fait Mitterrand et qui a été reprise et un peu coupée, c'est sur le chômage, on a tout essayé et ça ne marche pas. Et il va évidemment jamais le faire pour des raisons politiques.
Hollande face à la presse dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités Nathalie Saint-Cricq, Gérard Courtois, Frédéric Seyss et William Orobin. Keep on Shining du chanteur américain Curtis Harding, extrait de son album Soul Power. Curtis Harding remarqué lors des transmusicales de Rennes.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à l'Élysée pour cette première réunion de presse.
Et voici l'heure venue de la conférence de presse traditionnelle à l'issue d'un Conseil européen.
Cette Europe, qui est notre héritage et notre patrimoine commun, demeure plus que jamais une chance pour nous et pour notre avenir.
Le secret des sources.
Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias. Vous vous intéressez, Jean-Marie, à ces conférences de presse présidentielles et les relations entre la presse et les présidents sont très particulières en France.
Oui, il me semble qu'on peut dire que la conférence de presse est un peu des présidents de la République, est un peu un révélateur de la particularité du modèle de relation entre les journalistes et le politique qui est assez propre à la France. Disons que le modèle ou la notion de quatrième pouvoir chez au journalisme anglo-saxon a du mal à s'imposer. Soit la question d'une interpénétration entre le journalisme, la presse et le politique, et surtout une prétention du politique à davantage cadrer le travail des journalistes en imposant ses règles et en légiférant, d'ailleurs souvent, sur ces questions de médias. Il faut se souvenir que la France, contrairement à la Grande-Bretagne, a vu naître sa presse dans le giron du politique et non pas contre le politique. Alors ça d'abord est évidemment la Gazette, hein, qui naît avec la grande bienveillance de Richelieu. Théophras Renaudot bénéficie d'une exclusivité à perpétuité à l'époque, en même temps que d'aides financières pour lancer celle-ci. Puis il y a la Révolution française, et là c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une diversité, c'est l'invention du pluralisme, mais en même temps, la Révolution française confond presse, expression, action politique. Et c'est un peu les images de Marat, Hébert, Camille Dumoulin, journaliste, homme politique. Point d'interrogation. Thomas Ferenczi, dans l'invention du journalisme en France, montre bien tout le XIXe siècle, la Troisième République, où sans cesse se confondent les parcours et les destins, on va dire, de journalistes et de politiques. Hein, c'est Clémenceau, je sais pas, Briand, Jaurès, Blum, autant de figures qui sont sur ces deux, registres. Même si en même temps, c'est à ce moment-là qu'apparaît le processus, on va dire, de professionnalisation des journalistes politiques. Puis surtout, il me semble qu'il y a un moment fort, puisqu'on parle de la conférence de presse du général de Gaulle qui l'institue à ce moment-là, c'est les conditions dans lesquelles on reconstruit la presse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On est dans une presse qui a été sur un système d'autorisation, mais sur des critères politiques. On est face à une radio, une télévision à l'époque qui sont sous monopole public. Et puis surtout, on a cette institution, je crois que unique en tout cas dans les pays démocratiques, de ministère de l'information. Alors c'est vrai que nous n'en sommes plus là. Il n'y a plus guère de journalistes qui siègent à l'Assemblée ou qui occupent des postes ministériels. Il n'empêche que les relations entre les journalistes et le politique, tout particulièrement les institutions de l'État, me semble-t-il, garde une spécificité. Et les journalistes anglo-saxons, lorsqu'on les interroge, comme ça a été le cas tout à l'heure, lorsqu'ils sont au poste à Paris, nous disent tous leur étonnement dans la relation entre le président et les médias. Par exemple, et ça, pour avoir été quelques années dans les structures d'Arte, j'entendais régulièrement les journalistes allemands nous dire « Mais comment le président peut-il choisir les journalistes qui vont l'interviewer ?» Grand sujet d'étonnement. De la même manière, et ça a été évoqué tout à l'heure, que cette règle non écrite de conférence de presse où le droit de suite, ce qu'on appelle le droit de suite, ne fait pas partie des règles admises. Un journaliste du Guardian, avec qui je parlais ces jours-ci d'ailleurs de ces conférences de presse et de ces relations entre le président et les médias, avait deux anecdotes qui lui paraissaient, je dirais, le symbole de ces difficultés du politique en France à reconnaître la notion, on va dire, de contre-pouvoir de la presse. La première, c'était pour lui le moment où Jacques Chirac, lors d'une interview à l'Élysée par PPDA, lui reproche son impertinence, parce qu'il évoque la question des pots de vin. C'est aussi, et on est sur un tout autre registre, le refus de François Hollande de répondre à la question sur Julie Gayet. Mais c'est aussi le fait qu'aucun journaliste ne le relancera jusqu'à obtenir quelque chose comme une réponse. Alors c'est vrai qu'on peut dire que du coup, on est plutôt dans un modèle de relations partagées, dans lequel on a le sentiment, l'impression que les dirigeants politiques attendent une certaine retenue, une certaine déférence de la part des journalistes, et aussi où les journalistes, à certains moments, enfin, où les journalistes respectent cette règle, et même à certains moments, se mettent du côté des rieurs lorsqu'un président de la République se moque d'une question du directeur de Libération, en l'occurrence Laurent Geoffrin, en 2008. Alors, je voudrais terminer sur ce contraste avec un de nos voisins, puisque c'est de bon ton ces temps-ci de citer l'Allemagne. Comment ça se passe en Allemagne? Eh bien, Valérie Robert, qui est universitaire à Paris 3, me rappelait ces jours-ci, eh bien, qu'en Allemagne, c'est l'association des journalistes qui organise les Bundespressekonferenz. Ce sont les journalistes qui invitent donc les responsables politiques, et c'est un journaliste qui passe la parole aux uns et aux autres.
Jean-Marie Charon, sociologue des médias. Merci Jean-Marie.
Je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette dernière question et je vous dis à la prochaine conférence de presse pour d'autres questions qui peuvent parfois ressembler à celles d'aujourd'hui. Merci.
Voilà, c'était la conclusion de la conférence de presse. On sent un peu d'agacement chez François Hollande. Alors vous dites, Gérard Courtois, dans cet article dans Le Monde, que François Hollande vous fait penser à Nicolas Sarkozy en fin de mandat. Parce qu'il s'agace?
Alors effectivement, parce que pour la première fois, alors que Nathalie Saint-Cricq le rappelait, c'est quand même l'un des hommes politiques qui a eu les relations les plus, c'est pas de la connivence là, les plus actives, les plus riches, les plus, à mon avis, les plus intelligentes avec la presse depuis fort longtemps. Et pour la première fois, il a donné des signes d'agacement devant la répétition, notamment de la question sur son mea culpa. Alors, il est vrai qu'au bout de la troisième fois, une question sur « Monsieur le Président, vous pouvez pas nous faire un petit mea culpa supplémentaire ?» finit par être un tout petit peu ridicule. Mais bon, et de manière plus, à mon avis, plus structurelle, au-delà de l'agacement, il y a effectivement Au fond, au début de son mandat, François Hollande, on l'a tous constaté, et probablement lui-même l'a ressenti, flottait dans son costume. Et là, moi, il m'a donné l'impression pour la première fois, pas en janvier et février dernier, mais pour la première fois là, l'impression d'être coincé, corseté par son costume. Et ça m'a tout à fait penser, effectivement, à cette période de 2011-2012, quand Nicolas Sarkozy, à la fin de son mandat, a délibérément, de manière très, très manifeste, décidé de prendre la pause présidentielle, de se guillemets, comme il disait lui-même à l'époque, se représidentialiser ou se présidentialiser. Et j'ai eu un peu cette... Et il était, Nicolas Sarkozy, en 2011-2012, très comme ça, cambré dans son... et rigide, raide. Et j'ai trouvé François Hollande, la semaine dernière, un peu dans cette espèce de raideur qui ne lui est absolument pas naturel. Mais c'était un des autres décalages et contrastes qui faisait que cette conférence, à mon avis, n'était pas réussie.
Nathalie Saint-Cricq.
Je crois qu'il y a un tempo du quinquennat ou du septennat dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, ils aiment bien les journalistes. Après, on les agace un peu et à la fin, ils nous tolèrent. Parce que plus on s'approche de l'échéance, plus les choses sont tendues et moins ils espèrent qu'on soit spécialement aimable. Et puis deuxièmement, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que tout ce qui faisait cette espèce d'exercice intellectuel assez plaisant pour quelquefois les téléspectateurs ou plaisant pour les journalistes, il ne peut plus le faire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir d'humour alors qu'il en a, puisque ça serait contraire à la gravité. Si tant est qu'il en ait encore aujourd'hui et qu'il ait envie de rire, parce que j'ai trouvé que le ton de la conférence de presse, je l'ai trouvé un peu, non pas abattu, mais beaucoup moins allant et beaucoup moins, pas dépressif, mais presque il y avait un côté un peu, donc tout ce qui marchait bien chez lui, il ne peut plus le faire. Un, parce que ce n'est pas le moment, le chômage, les difficultés, le contexte international. Donc, il est coincé, il est obligé d'être prudent, il ne peut rien dire, il fait attention à la synthèse avec sa majorité, donc il ne peut pas être trop libéral, il ne peut pas parler de la loi Macron 2. Donc, il godille, et finalement, tout ce qui faisait que ça marchait, ou que ça pouvait marcher, ça ne peut plus marcher. Donc, c'est un exercice paradoxal. Et puis, je pense que plus on va se rapprocher de l'échéance, et puis c'est aussi que c'est peut-être ça, non pas sa dernière rentrée politique efficace, mais dans un an, ça sera cuit, ou pas cuit. Mais tout se sera décidé dans les 6 ou 8 mois qui viennent, où ça marche, ou ça marchera plus.
Gérard Courtois.
Oui, je voulais compléter ce que disait Jean-Marie Charon. Pour ne pas réduire, au fond, la communication présidentielle à la conférence de presse, il y a... vis-à-vis des Français, à l'intention, à l'adresse des Français, d'autres modes de communication, des allocutions, des vœux, etc., etc., des déplacements sur le terrain qui sont l'occasion de prises de parole plus ou moins longues, plus ou moins ciblées, etc. Et avec les journalistes, il y a bien, et François Hollande en est un assez bon exemple, bien d'autres modes de communication, et pas seulement de communication, de travail, d'échange. Ce que je trouve contre-productif dans l'exercice de la conférence de presse pour François Hollande, c'est qu'il perd tout ce qui fait l'intérêt d'une discussion avec lui en privé, une discussion de travail avec lui.
Frédéric Saïs, en conclusion.
Rapidement, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a, sur cette comparaison de Nicolas Sarkozy, François Hollande, sur le schéma du quinquennat, il y a peut-être aussi l'effet euphorie de l'homme nouvellement élu qui se dit « c'est ma personnalité qui a plu ». Il y a une forme de dopamine peut-être qui dure longtemps dans le cerveau présidentiel. Nicolas Sarkozy, c'était le côté « je suis moderne, je change tout, j'affiche ma vie privée, les Français m'ont élu comme ça ». François Hollande, c'était « je fais des blagues et les Français m'ont élu comme ça, je suis un président normal », etc. Puis il y a une prise de conscience, inévitablement, au cours du mandat, que les Français veulent un peu de solennité. Et deuxièmement, finalement, pour un président qui a autant de pouvoir, qui est autant, beaucoup dit le mot monarque, qui a peu d'occasions de s'afficher dans un cadre présidentiel. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait fait la réforme pour pouvoir aller devant le Parlement en 2008. Finalement, ça a très peu servi, ni à lui, ni à François Hollande. Et finalement, c'est peut-être pour ça que ces conférences de presse perdurent.
Eh bien, rendez-vous dans 6 mois à l'Élysée, a priori en janvier, pour la 7e conférence de presse du quinquennat. Le clin d'œil de Yacine Bouzard pour clore cette émission.
Monsieur le Président, un test d'oreillette. Vous me recevez ?
Oui.
Parfait, c'est à vous.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de participer à la 6e conférence de presse depuis le début de mon mandat.
Le paragraphe qui suit est très important. Il risque d'être repris par toutes les rédactions.
Tout commande de faire des choix. Faire des choix pour préparer l'avenir. Faire des choix pour la France.
Plus lentement, Monsieur le Président, plus lentement.
Faire des choix pour l'Europe, pour la mettre
c'est bien.
Chaque fois qu'elle est
continuez.
Sollicitée dans la bonne direction. Sans calcul,
Monsieur le Président,
ni répit.
Il faut passer aux questions des journalistes maintenant.
Je vous propose maintenant de passer aux questions.
Est-ce que vous auriez aussi des regrets sur votre suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires ?
Alors, la croissance d'abord.
Le texte, monsieur le président, le texte.
Elle reprend ?
Ne vous éloignez pas du texte.
Pas suffisamment ?
La croissance, elle pourra être...
La croissance, elle pourra être de 1,5%
C'est bien.
L'année prochaine.
Est-ce que, comme Barack Obama, vous êtes prêt à participer à une émission de télé-réalité type aventure ou survie ?
J'ai l'impression de participer à cette émission depuis 2012. Et je vous remercie d'en être l'animatrice, mais...
Monsieur le Président, pas de blague. Il faut rester grave.
La politique de baisse des impôts sera poursuivie en 2016.
Monsieur le Président, il faut conclure maintenant.
Je vous dis à la prochaine conférence de presse. Merci.
Le débrief dans votre bureau à 16h, Monsieur le Président.
Voilà le clin d'œil, Yacine Bouzard, avec la voix de Cyril Baer. L'actualité de la semaine à l'étranger, l'Italie, où l'on retrouve Mathilde Imberti, correspondante de Radio France à Rome. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et ce qui fait la une chez vous cette semaine en Italie, ce n'est pas François Hollande, c'est encore la question des migrants.
Oui, absolument, avec le plan Juncker présenté cette semaine et son application avec du nouveau en Italie paru aujourd'hui même dans le quotidien Il Messaggero, selon lequel les hotspots seront inaugurés jeudi prochain le 17. Les hotspots, ce sont des centres de tri. Alors, le mot n'est pas très joli, mais c'est celui qui est utilisé. Hein. Les migrants vont être triés, c'est un fait, selon leur nationalité. Le plan Juncker prévoit que 40 000 migrants actuellement en Italie seront accueillis en France, en Allemagne ou en Espagne, mais seulement deux nationalités de migrants, les Syriens et les Érythréens. Alors le plan Juncker, dont on parle beaucoup cette semaine en Italie, est accueilli avec soulagement, mais la presse italienne se fait du souci pour les autres migrants, les Nigérians, les Gambiens, les Soudanais, les Sénégalais, qui pour des raisons parfois très différentes débarquent ici. Que vont-ils devenir ? S'inquiétait la Stampa en début de semaine, rappelant que chaque jour, 300 migrants continuent de débarquer sur les côtes italiennes. La problématique pour eux, c'est aussi l'hébergement. Ça, c'est un travail de fond, il faut le souligner, du Corriere della Sera, qui suit jour après jour l'avancée du plan d'urgence du ministère de l'Intérieur italien. Il Corriere a eu le détail de ce plan. 20 000 places d'hébergement supplémentaires vont devoir être créées, réparties sur toute l'Italie. Et puis, pour finir, sur les migrants, la tendance dans la presse italienne cette semaine a été de souligner le rapport en termes économiques. Selon Il Messaggero, les travailleurs étrangers comptent pour 9% de la richesse nationale. Sans les immigrés, estime de son côté la Repubblica, il manquerait 7 milliards dans les caisses de l'État italien.
Alors le pape et la réforme du mariage a également beaucoup intéressé les médias en Italie. Cette réforme a été commentée, et notamment cette question d'un divorce catholique.
Oui, c'est un peu ça, un divorce, en tout cas une réforme de la procédure en nullité des mariages, puisque pour se remarier à l'église, il faut demander la nullité du premier mariage. Alors actuellement, ça demande du temps et de l'argent aux fidèles. Il faut en référer à Rome systématiquement. Donc mercredi, le Vatican annonçait que selon le souhait de François, eh bien la procédure de demande de nullité devenait gratuite et simplifiée. Une seule sentence va suffire, elle pourrait être rendue dans les diocèses directement. Alors la République, car il voit une réforme effrayante pour les conservateurs de l'Église, un premier pas vers une ouverture de l'Église aux divorcés remariés. Et ce thème vraiment très délicat sera étudié lors du synode des familles, là tout prochainement, début octobre. Et puisqu'on parle d'union, Frédéric, en Italie, a refait surface également cette semaine un autre serpent de mer, les unions entre couples de même sexe. Le Parlement européen a demandé cette semaine à l'Italie d'accorder des droits aux homosexuels, car ici, il n'y a pas de pax, encore moins de mariage. Alors Matteo Renzi, le président du Conseil, s'est exprimé partout dans la presse, ainsi que la ministre en charge du projet d'union civile. Ils promettent que finalement, le projet mettant en place donc ces unions sera étudié au Parlement dans le courant de l'automne.
Et puis Mathilde, la télé, la RAI, avec un talk show qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine.
Oui, le talk show Porta a Porta. Il passe en deuxième partie de soirée sur la première chaîne de la RAI. C'est une institution en Italie, un présentateur indéboulonnable, Bruno Vespa. Mais voilà, en début de semaine, ce vieux routier de la télé a eu l'idée d'inviter la famille Casamonica sur son plateau. Alors les Casamonica, sont des mafieux, clairement, qui sévissent au sud de Rome. Les funérailles du boss de ce clan, on en a parlé d'ailleurs sur France Culture, ont ulcéré les Romains. Il s'est payé, Vittorio Casamonica, des funérailles royales avec les carrosses, la musique du parrain dans la rue, hein, les pleureuses, toutes les rues bloquées, et c'était vraiment la polémique de la fin de l'été. Alors Bruno Vespa, donc, pensait bien faire en invitant la fille et le neveu de ce boss mafieux sur le plateau de Porta a Porta, mais pas du tout. Tout le monde lui est tombé dessus. À commencer par le Parti démocrate, le premier parti d'Italie, celui du gouvernement. Comment le service public télévisuel pouvait-il oser? Il a donc dû accorder Bruno Vespa une sorte de droit de réponse en faisant intervenir dans l'émission suivante un personnage beaucoup plus honorable, l'adjoint à la légalité de la mairie de Rome. Alors, à noter, hein, Frédéric, qu'en invitant la famille du mafieux Casamonica, eh ben, le talk show a fait une audience excellente, autant de téléspectateurs que poursuivent les confidences de Matteo Renzi, l'émission de la veille.
Mathilde Imberti, correspondante de Radio France à Rome, et Mathilde Nathalie Saint-Cric en plateau, vous écoutez avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci à tous nos invités. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Nathalie Saint-Cric, chef du service politique de France 2, Gérard Courtois, éditorialiste au Monde, auteur des grandes crises politiques françaises 1958-2014 chez Perrin. William Robin était également avec nous, correspondant du Wall Street Journal en duplex au téléphone, et Frédéric Seyss, grand reporter au service politique de France Culture. Notre regard extérieur de l'émission, Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Frédéric. Le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard. Merci à Mathilde Imberti que l'on vient d'entendre. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques. Racontez la France. Alain Finkielkraut reçoit les journalistes Florence Aubenas et Philippe Lançon. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
C'est vrai qu'il y a un aspect extrêmement monarchique, évidemment, qui... d'ailleurs, j'entendais derrière moi, il y avait des confrères italiens qui disaient, voilà, on est au château et on est... le roi arrive bientôt. Enfin, voilà, il faisait des blagues. Tout le monde se lève quand le président arrive, ce qui n'empêche pas, évidemment, ensuite de poser des questions qui, là, pour le coup, ne participent pas toujours de l'esprit de cour.
La conférence de presse, pour être réussie, il faut que ce soit un événement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Or là, très honnêtement, tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a développé était déjà connu.
Un, il y a plein de sujets sur lesquels il ne voulait pas parler, et on a même eu l'impression qu'il n'aimait plus les journalistes, alors que logiquement il a passé sa vie à les adorer et adorer cet exercice intellectuel. Donc ça a donné même un président à la fin qui avait l'air de s'énerver, du genre vous allez encore me poser les mêmes questions à la noix.